Sur le bout de la langue. Ça va faire des histoires. Une émission proposée par Virginie Komaniecki.
Je suis entrée dans une forêt sans arbres, la tête la première. J'ai suivi un fil d'eau intarissable. Il m'a tout raconté sans dire un mot. À la source des sources, j'ai vu se mélanger des récits de partout, de longtemps, de toujours. Il parlait avec aujourd'hui et demain, les écouter. Alors, à pleine bouche, j'ai puisé. J'ai tourné ma langue cette fois. Tu me crois ? Tu ne me crois pas. Pourtant, c'est là. C'est sur le bout de ma langue. Je raconte. Je raconte et je m'oublie. Ici, maintenant, et puis déjà ailleurs, je me quitte. Et je m'offre à un puissant voyage en partage. Conteurs, conteuses, nous avons tous et toutes connu cette magie de l'effacement par le prisme du récit. C'est un peu notre cam, c'est notre sésame. Et son délice absolu réside dans le partage, la communion qui en résulte. Il m'est arrivé un soir en tant que public de m'envoler aussi littéralement, tandis que j'étais venue écouter le conteur Jean David, qui partageait ce soir-là le Cantique des Cantiques. Je l'ai regardé rentrer, s'agenouiller sur scène, prendre son luth, en faire vibrer les cordes, et se lancer en hébreu puis en français d'un ton mélodieux, un peu suranné, et là je me suis prise à penser, bon sang, ça va être long. Puis après, je sais pas. Il y a le temps, l'espace, enfin tout s'efface. L'impression de me diluer, de nous diluer. Et au dernier son du luth, un très long silence. Et on est là, hagard, une centaine de spectateurs qui peinent à sortir d'un doux rêve. Qu'est-ce qui s'est passé ? De l'autre côté du miroir. Conteuse professionnelle depuis 1986, Sylvie Delhomme est aussi chanteuse, auteure, metteur en scène et comédienne. En 2002, elle a publié dans le numéro 156 de Cairn un article intitulé « Conter aujourd'hui ». Je m'assieds. Ma guitare à côté de moi, devant une assemblée qui est venue m'écouter, et une parole prend corps. La mienne, ou bien une parole qui devient commune à celle qui parle et à ceux qui écoutent. Cette parole colporte des récits anciens qui puisent leur contenu dans les mythes les plus reculés de l'humanité, à savoir les contes traditionnels. Je les porte dans un style qui mêle le parler et le chanter, soutenu par la sonorité de la guitare. Rien de plus, rien de moins. Pas de costume, pas de décor, pas de personnage incarné, pas de déplacement. Le son de la voix, les phrases posées, les regards, le corps qui vibre, sans que ça se voie. Les mains, l'expression du visage, les silences, au service d'un verbe si simple, à la syntaxe si pauvre en apparence, qu'il ne peut s'écrire sur le papier. C'est tellement anti-spectaculaire. C'est une sensation étrange. Avec un assemblage de sons, on donne du sens. Pas seulement un sens conceptuel, mais une sensation vécue et partagée de ce qui est évoqué. Pour l'artiste de la parole, celle-ci doit se faire créatrice pour toucher l'autre dans sa réceptivité. Elle doit prendre chair. Il est difficile de décrire cette alchimie du verbe. Elle demeure un mystère. On a beau identifier les processus qui mènent à la formulation, à peine intervient-elle qu'elle s'échappe, ça participe de sa beauté. Et ceux qui écoutent sont sensibles à cet éphémère qui les rend d'autant plus libres. Plus libres aussi quand celui qui parle n'impose pas une explication mais décrit les choses en elles-mêmes telles qu'elles lui apparaissent. Surtout, ne pas chercher à tout prix à se faire comprendre. L'auditeur aime cette liberté, car on ne peut pas tout dire, à lui de faire le reste du chemin. La parole ne s'engendre pas elle-même, elle vient du silence que l'on s'impose à soi-même. Alors seulement quelque chose se fait entendre. Notre personne, et d'abord le corps, se met en état d'inspiration. Bref, il ne s'agit que d'inspirer, c'est pas compliqué. On le fait tout le temps, inspirer. Acte respiratoire, aspirer à l'intérieur l'air extérieur. Air qui se fond à l'alchimie du corps, se transforme en vie et s'expire. Toujours ce souffle. Soutien de la voix et de la parole. Et il est profondément émouvant dans ce rapport à la parole comptée de constater qu'elle est pleinement goûtée quand le compteur est ce qu'il est. C'est sa fragilité humaine qui donne à la parole proférée son caractère véritable. Le spectateur de l'art vivant éprouve le sentiment que celui qu'il voit agir sait faire quelque chose que lui-même fait moins bien. Ça fait partie du jeu, mais le voyage proposé par l'histoire est à faire ensemble. Ainsi, le beau parler n'est rien sans le contenu, sans le vécu du verbe, sans le déroulement physique des sens, du sens. Ce qui est beau, c'est ce qui est juste. Et parler est un acte de présence. Ce type de parole nue, sentie, vibrée, les enfants, les adultes la reçoivent dans leur sensibilité, mais aussi dans leur dignité. Ils sont actifs et non captifs, ils écoutent, se laissant librement ravir. Ce qui est raconté est un voyage fait de changements d'état que vivent ensemble et en direct les protagonistes de l'histoire, le conteur et l'auditeur. Nous pleurons avec ceux qui pleurent. Nous rions avec ceux qui rient et nous souffrons avec ceux qui souffrent. Ces mouvements de l'âme, nous les comprenons à partir de la vue des mouvements du corps. Léon Battista Alberti.
J'ai aimé l'histoire d'Hamlet. Je ne sais pas exactement pourquoi. Il y a certainement des raisons. Des raisons profondes. Mais c'est sans importance. Je vais essayer de vous raconter cette histoire comme je l'ai ressenti, moi. Et vous la ressentirez comme vous voudrez, vous.
Avec la découverte des neurones miroirs, les neurosciences commencent à comprendre ce que le théâtre sait depuis toujours. C'est par cette citation du metteur en scène Peter Brook que débute l'ouvrage intitulé « Les neurones miroirs » publié en 2006. Ce livre, écrit par le philosophe Corrado Sinigaglia de l'Université de Milan et le neuroscientifique Giacomo Rizzolatti de l'Université de Parme, est le premier à décrire ces étonnants neurones qui s'activent de la même façon quand on réalise une action et quand on la regarde faire. Ce que le théâtre sait depuis toujours, c'est que chaque action réalisée sur scène a une résonance physique chez le spectateur. En passant au crible le cerveau et le corps de personnes en train de regarder des spectacles de théâtre ou de danse, les neuroscientifiques ont effectivement trouvé la trace de cette résonance qui reposerait sur les neurones miroirs, mais aussi sur d'autres mécanismes cérébraux. Les chercheurs commencent ainsi à comprendre pourquoi ces spectacles nous bouleversent. En 2010, Marie-Noëlle Metzlutz de l'INSERM et ses collègues ont réalisé une étude pionnière en collaboration avec le Théâtre national de Strasbourg. Les participants étaient allongés dans un appareil d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, tandis qu'ils regardaient une vidéo d'une pièce de théâtre grâce à des lunettes spéciales. Les chercheurs ont montré que plusieurs aires cérébrales particulières s'activaient alors, notamment celles associées à l'empathie et à la théorie de l'esprit, la capacité de se mettre à la place de l'autre, de même que celle associée à la compréhension des métaphores. Ainsi, les spectateurs s'imaginent à la place des personnages, partagent leurs émotions, leurs pensées, et ça se voit dans leur cerveau. Plus étonnant, L'équipe de Marie-Noëlle Metz-Lutz a trouvé une baisse de l'activité du précuneus, une zone cérébrale intervenant dans la conscience de soi. Or, on constate aussi cette baisse dans les états d'hypnose, et cette baisse entraînerait une déconnexion des sensations corporelles. Le spectateur serait ainsi tout entier dans le spectacle au point qu'il s'oublierait lui-même. Les neurones miroirs accentueraient encore cette immersion dans un film ou une pièce de théâtre, car grâce à eux, notre système psychomoteur simule en permanence les actions observées. Cette résonance particulièrement forte dans le cadre du spectacle vivant est peut-être due à la quantité supérieure d'informations captées par le spectateur quand il est dans la salle. Il perçoit alors davantage la posture, l'engagement de tout le corps dans une action, la profondeur de l'espace où se meut le comédien. Les neurones miroirs constituent en tout cas un système très fin de discrimination des intentions, une capacité précieuse pour les animaux sociaux que nous sommes. Et l'article poursuit en expliquant comment le spectateur devient spect-acteur, en anticipant aussi les actions. Co-créer, être ensemble, et puis s'inventer des récits. Les humains aiment les histoires, ils sont faits d'histoires et de souvenirs. Michel Foucault aimait à dire que notre espèce animale n'est ce qu'elle est que parce qu'elle se raconte. Si cette attirance pour les histoires est le propre de l'homme, nous souhaitons ici comprendre pourquoi nous sommes si attirés par les histoires, notamment en communication interpersonnelle. C'est le neuroscientifique Paul Gizac qui a démontré que les histoires permettent au cerveau de produire deux types d'hormones. L'une est nommée cortisol ou hormone du stress, et l'autre oxytocine ou hormone de l'attachement, de l'amour, du bien-être et de l'empathie. Pour comprendre comment ça fonctionne dans le cerveau, ce neuroscientifique a mené une expérience en invitant des personnes à visualiser une vidéo qui raconte l'histoire de Ben, tout en observant les réactions du cerveau des participants. Le principal enseignement de cette étude est que pour produire une histoire passionnante, il faut réunir deux critères. Le premier est que l'histoire doit susciter notre intérêt et retenir notre attention. Le second est qu'il faut qu'elle nous transporte dans l'univers de ces personnages. Autrement dit, le meilleur moyen de capter l'attention du public est d'appliquer soigneusement les lois de proximité pour l'inviter à s'identifier tant à l'histoire qu'au personnage et éveiller ainsi sa curiosité. L'oxytocine ou hormone de la morale nous rend plus sensibles aux autres. C'est en effet l'hormone qui crée la confiance, la générosité et l'empathie, voire la compassion. Elle rend les personnes sensibles aux signaux sociaux qui les entourent. C'est ce qui nous motive à aider les autres, en particulier si l'autre semble vraiment avoir besoin de notre aide. Pour les orateurs, il s'agit de transporter le public dans un autre univers. Un univers qui éveille leur imagination, qui les fait réfléchir à travers leurs émotions. Un univers qui les aide à comprendre rapidement une idée avec le moins d'efforts cognitifs, en les amenant à placer une image sur chaque mot. La mise en scène et la contextualisation permettent dès lors de toucher une audience plus large, un public jusque-là étranger. Elle crée une connexion entre nous et les autres, entre nous et le monde.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James. Comment a-t-il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez. Écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde.
Alors voilà, Clyde est une petite amie. Et son prénom, c'est...
Bonnie.
I do the form like on the barrel. L'amour.
Bonnie Parker.
Et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Honnêteté, droit.
c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde.
Eustache, cinéaste de la nouvelle vague, mort à 42 ans, n'a produit que peu de films. Mais ce sont des trésors inégalés de liberté, de finesse et de transgression. Pour l'essayiste et documentariste Jérôme Prieur, le cinéma d'Eustache, ça montre des êtres humains comme il y en a peu sur l'écran du cinéma. Et d'ajouter, c'est un cinéaste de la parole. Moi, j'ai découvert son cinéma autour de ma petite vingtaine. D'abord avec le film « Mes petites amoureuses ». Et là, j'ai été mordue. J'ai voulu les voir tous. J'ai revu, il y a peu de temps, « La maman et la putain » qui n'était plus projetée depuis des années pour des raisons de droit. Une vraie merveille. Pendant 4 heures. Sans aucune autre musique que celle écoutée parfois par les personnages. Des hommes et des femmes se retrouvent, fument, boivent, font l'amour, refont le monde et se racontent. On plonge avec eux. On s'ajuste à leur drôle de rythme et on voit pas le temps passer. Eustache filme celui qui parle. Mais bien souvent, sa caméra se perd dans la contemplation de celui ou celle qui écoute et le récit prend alors sous nos yeux sa pleine dimension de partage. On y voit par le visage de celui qui reçoit dans les effets et subtiles émotions suscitées par la narration. En 1977, Jean Eustache réalise le film Une sale histoire. Dans un salon, un homme raconte à trois femmes comment il devint voyeur dans un café qu'il fréquentait et pourquoi il y prit goût pendant un temps. Il explique alors comment il fut intrigué par le manège de certains consommateurs dès qu'une femme se rendait aux toilettes et comment il revint fréquemment dans l'établissement pour y observer à loisir et incognito le sexe des femmes. Suit alors une discussion sur la sexualité, la libération et les tabous. Et la même histoire est ensuite racontée à trois comédiennes par celui-là même qui l'a vécu. Le film trouve son origine dans une histoire présentée comme réellement vécue par Jean-Noël Pic, un ami de Jean Eustache, qui avait accidentellement découvert l'existence d'un étrange rituel dans les toilettes d'un café parisien de la mode Piquet-Grenelle. Un trou placé au bas de la porte des toilettes des dames permettait aux hommes d'observer le sexe des femmes qui s'y rendaient. Deux fois, un homme, Michael Lonsdale dans la fiction, Jean-Noël Pic, lui-même dans le documentaire, fait dans les mêmes termes exactement et dans des conditions quasiment identiques le récit de cette expérience scandaleuse. En l'absence d'images qui montreraient le lieu ou l'action, c'est bien le trouble particulier que la transmission génère qui permet de mesurer sa force de vérité au sens philosophique et esthétique du terme. Devant les auditeurs rassemblés, le voyeur se fait homme public. La parole se donne en spectacle. Et Jean Eustache de confier. Cette sale histoire, moi je voulais la faire depuis des années et je cherchais des biais pour la faire. D'abord, je pensais la mettre dans un long métrage, en faire une digression. Ensuite, j'ai pensé, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la réflexion. Donc, je vais l'illustrer à moitié. L'illustration sera portée par le récit. On verra tantôt l'action, tantôt le récitant. Et j'ai pensé que c'était pas bien non plus. Et en dernier lieu, j'ai trouvé que la seule façon de faire ce film, c'était le récit. Filmer le type qui raconte l'histoire. C'est le film impossible à faire, je le déclare impossible. J'essaie de l'écrire, je peux pas. Donc je la fais raconter, cette histoire. Et j'ai inclus ma préoccupation et ma recherche dans le film. Ainsi, tandis que Michael Lonsdale raconte. Pétrissant des coussins, lissant le tissu de son pantalon, fumant cigarette sur cigarette, visiblement mal à l'aise au départ. Une femme, puis deux, puis trois, s'approchent. Se pose, l'écoute. Il émane d'elle une grande puissance et nous contemplons par le prisme de la caméra leur visage, réaction, émotion. Et le récit nous impacte, trouve corps et consistance en traversant ces femmes.
Eh bien voilà, c'était autrefois, il y a 8-9 ans de ça. J'allais fréquemment dans un café à la mode Piquet-Grenelle. Et j'y restais beaucoup parce que j'avais pas le téléphone chez moi et j'avais beaucoup de coups de fil à donner. Donc je quittais fréquemment ma table pour descendre au téléphone qui était au même endroit que les toilettes. Alors, il y avait les toilettes hommes, les toilettes femmes, lavabo, téléphone. J'avais, disons, chaque fois, 6-7 coups de fil à donner, ce qui impliquait que je descende deux fois plus. Tantôt parce que c'était occupé, tantôt parce qu'il fallait remonter, dire à la caissière qu'elle avait oublié de mettre la tonalité. Donc j'y descendais très très fréquemment. C'était un café assez vide, il y avait assez peu de monde qui venait, avec de brusques afflux, enfin j'y fais pas attention. Et puis, peu à peu, j'ai cru observer l'ironie des garçons quand ils me regardaient. Une fois, j'ai entendu très nettement « Et pourtant, il est jeune, celui-là, il n'est pas comme les autres. » Alors, je ne comprenais pas. Et puis, une autre fois, j'ai entendu très, très nettement cette fois « Et tout ça pour un trou. » Alors, je me suis dit « Mais quel trou? Qu'est-ce qu'il raconte ?» Et puis j'ai tout de suite pensé, trou dans les toilettes féminines. Alors je suis descendu dans les toilettes féminines, j'ai regardé s'il y avait un trou, et il n'y en avait pas. D'habitude, il y en a toujours bouché avec du papier journal à hauteur du siège. Mais, je me suis toujours dit que c'était ridicule, parce que pour qu'une femme se laisse regarder comme ça, il fallait vraiment qu'elle le veille. Et là, il n'y avait pas de trou. Alors, j'en ai parlé à quelqu'un qui habitait avec moi, un garçon qui était un pervers professionnel et qui explorait un petit peu tout ça, qui connaissait un petit peu tous les petits mystères des cafés de Paris. Oh, c'était un pervers magistral. Il faisait profession de perversion, comme tous les vrais pervers. Et il avait un air maître d'école dans sa perversion. Et il m'a dit, mais oui, mon cher, il y a un trou. Tu ne t'es pas trompé, tu n'as pas mal entendu, il y a un trou. Mais ce trou est très mal placé quant à la position qu'il faut prendre pour le voir, et très bien placé quant à ce que tu vois. C'est un trou à ras du sol. Alors j'ai dit, mais comment faire pour voir si c'est à ras du sol? Il faut s'allonger. Il m'a dit, non, à ce point-là, c'est pas nécessaire. Et il m'a montré la position qu'il fallait prendre. Alors sur le tapis, près de son lit, il a pris la position de la prière musulmane, appuyé sur les avant-bras, le cul en l'air, et regardant à ras le sol.
La joue collée au sol.
Oui, la joue collée au sol, et c'est ça qui m'embêtait, parce que c'est une position que j'aime pas du tout, que je prends jamais. Et je lui ai dit, mais enfin, c'est pas faisable dans un lieu public de se tenir comme ça. Et il m'a répondu, oui mon cher, pas de plaisir sans peine, vas-y, choisis. Alors je suis allé, et puis au moment où une femme descendait, effectivement, je me suis mis dans cette position. Et alors là, il y avait un trou, c'est vrai. Enfin, c'est-à-dire que la porte était rabotée en bas, rabotée à l'angle où ça ouvre. Et puis ce qui m'a frappé, c'était que c'était peint par-dessus. C'est-à-dire que ce n'était pas un type qui, avec une vrille, avait fait ça. On avait l'impression que ça faisait partie de la conception, enfin, de l'architecture même du café. Alors j'ai regardé, et puis l'angle était absolument direct. D'abord j'ai regardé par curiosité, puis une fois, deux fois, trois fois, puis j'ai commencé à comprendre tout le jeu. Il y avait peu de monde dans le café, avec de brusques afflux, au moment où une femme descendait aux toilettes. Puis tout d'un coup, j'ai vu. J'ai vu les types qui étaient au comptoir, et j'ai compris pourquoi ils avaient dit, et pourtant il est jeune celui-là. Bon, c'était des types qui étaient, qui faisaient un peu minable, avec une cravate, qui faisaient un peu minable incontestablement, qui avaient la sueur au front et qui trépignaient. Et il y avait un brusque afflux au moment où une femme descendait. Alors j'ai pris ma place dans cet afflux, il y avait un code. Il descendait les escaliers en tapant très fort des talons, ce qui voulait dire c'est mon tour. Or, je regardais par curiosité d'abord, parce que moi, j'étais pas comme il disait, j'étais mieux. Et j'ai commencé à y prendre drôlement goût. Et je faisais plus que ça. Et je passais plus 2 heures dans l'après-midi dans le café, comme j'avais l'habitude de le faire, mais 5 heures. Et je prenais un peu trop de place. Je voyais des regards rancuniers qui signifiaient « Mon cher, tu exagères. » J'ai pris l'habitude de voir des femmes que je connaissais pas du tout. Et souvent même, j'ai eu l'impression que je savais pas comment elles étaient faites, parce que c'était soit de la cabine du téléphone, soit des toilettes masculines que je guettais. Et puis je voyais une silhouette, vaguement, mais rien de plus. Puis parfois, je les voyais parce que je les avais déjà vues, et puis elles descendaient. Alors j'ai regardé par le trou. Et je les voyais par le sexe. Immédiatement par le sexe. Alors, peu à peu, je me suis senti pris. Puis je commençais à voir qu'il y avait de sacrées différences entre les sexes que je n'avais pas remarquées auparavant. Par exemple, il m'arrivait de voir des sexes qui m'excitaient drôlement. Alors je repérais les souliers, la forme, la couleur. Puis à la sortie, je voulais voir à qui appartenait ce sexe. Puis la femme était horrible. Puis d'autres fois, c'était tout le contraire. Enfin, j'ai pris 2 cas extrêmes et... c'est à peu près ça. Et parfois, quand elle sortait, ben, je voulais voir à qui appartenait ce sexe qui m'avait donné de l'horreur, qui m'avait donné envie de vomir. Et puis tout ceci à genoux, en retenant mes cheveux pour pas qu'ils traînent dans la piste qu'il y avait plus ou moins par terre, et en attendant le signal des talons qui descendaient, des hommes qui voulaient prendre leur place. Puis je voyais que c'était une très belle femme, et que son sexe me déplaisait. Et je voyais tout de suite à quel point je me suis trompé si j'avais essayé de faire connaissance avec cette femme. Et là, brusquement, toutes les hiérarchies du corps se sont renversées. C'est-à-dire, pour reprendre une locution connue, on pourrait dire que le miroir de l'âme, c'est le sexe. J'ai réalisé que depuis, 4000 ans peut-être, on avait été complètement couillonnés, qu'on avait essayé de nous faire croire que le désir d'un homme, ça dépendait de la beauté de la femme, et je me suis aperçu que c'était complètement faux. Que cette beauté, c'était quoi, les yeux de gazelle, la bouche de je sais pas quoi, la silhouette, mais que c'était complètement faux, que c'était le sexe et que le reste ne comptait pas. Alors j'ai continué comme ça un certain temps, et puis j'ai senti que je devenais complètement fou, qu'il n'y avait plus que ça qui m'intéressait. Alors j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'ai eu l'impression que finalement, tout ne pouvait plus être vu que dans la perspective de ce trou. Ce trou bizarre qui n'avait pas été fait par quelqu'un, enfin, un pervers quelconque qui avait fait un trou. J'ai l'impression que d'abord il y avait le trou, qu'on a construit le trou d'abord, puis la porte au-dessus, puis qu'on a construit le café, et que dans ce café, il y avait une caissière, trois garçons, enfin deux flippers, des clients, des choucroutes, des assiettes froides, toutes les consommations servies habituellement, mais bon, il y avait tout ça, mais que ça ne fonctionnait que pour le trou. Que pour le trou. Et que tout le reste était de la frime. C'était de la frime. Faire semblant de gagner de l'argent, bon, faire semblant de travailler, faire semblant d'en faire dépenser aux autres, ou d'ailleurs en faire dépenser pour de bon ou en gagner, mais que tout ça, c'était pour le trou.
Pour cette émission, je suis allée chercher quelques articles scientifiques, et je note au passage que la comédienne Anouk Grimbert a consacré dernièrement une longue recherche autour du cerveau des acteurs. Ce qu'elle dit est passionnant, mais j'ai pas retenu son travail car elle s'intéresse à l'autre côté du miroir. De nombreux entretiens sont à visionner sur le net, si ça vous tente. Et puis, je vous invite également fort à découvrir le travail du cinéaste Jean Eustache, si vous le pouvez. Singulier, ciselé et inégalé. Les références aux musiques et extraits se trouvent sur la page de l'émission. Voilà. Sur le bout de la langue, c'est fini pour ce mois-ci. Je remercie Pauline Lemaire des Marais pour la réalisation. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission sur les ondes de Radio-La.